Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport. Tiens, on a une pensée ce matin, évidemment, toujours pour Christophe Glaise, hein, journaliste sportif français détenu depuis plus de 10 mois en Algérie, simplement pour exercer son travail de journaliste. On pense fort à lui ce matin et on espère, quand on voit l'actualité, là, que les choses évoluent dans le bon sens. Christophe, on pense à lui et ses proches, évidemment. On est dans les grandes gueules du sport ce matin avec Alizé Cornet, avec Christophe Cessieux, avec Fred Weiss et Sarah Pitkowski. Tiens, rendez-vous également sur RMC aujourd'hui, hein, 17h15. Écosse-France au tournoi destination féminin, les Françaises qui vont essayer de continuer leur sans faute pour l'instant, hein. Alors, ça n'a pas réussi aux garçons, hein, d'aller à Murrayfield lors du tournoi destination masculin. Là, c'est pas à Murrayfield, peut-être que ça va nous porter chance pour les Françaises. Non, mais il faut faire un sans faute avant d'affronter les Anglaises la semaine prochaine pour le tournoi destination et essayer d'aller enfin taper les Red Roses. Allez, je vous rappelle que vous pouvez écouter la première heure des grandes gueules du sport en podcast, évidemment. Dans un instant, on va parler de la punchline d'Arina Zabalenka qui menace de boycott les prochains grands chelems. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, remportez votre enceinte portable Minoté, design toujours épuré de Lexon. Je rappelle, Fred, qu'on peut la transporter partout grâce à
un mousqueton
intégré. Tu fais du vélo, bam, t'as ton enceinte. Je te vois bien sur ton vélo comme Victor Wembanyama sur le Tour de France cet été. Grand vélo, évidemment, à utiliser.
Avec son beau mousqueton.
Pour gagner votre enceinte Lexon, appelez le 32-16, touche 4, envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Mais d'abord sur le ring, Novak Djokovic, de retour hier à 2 semaines de Roland-Garros. L'homme aux 24 grands chelems nous a fait rêver cette saison en battant Sinner, souvenez-vous, en demi-finale de l'Open d'Australie.
RMC, le ring des GG.
Revers sur revers, Novak Djokovic qui pilonne le revers de Yannick Sinner, mais pour l'instant ça tient des deux côtés. L'échange est remarquable. Oh, service gagnant, il a plus qu'à finir là. Oh, ça sort, Yannick Sinner qui part à la faute et Novak Djokovic réalise l'exploit insensé. 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, il l'a fait. Il sort le numéro 2 mondial, il met fin à 5 défaites d'affilée. Incroyable, incroyable.
Et oui, c'était incroyable. Bon, il a pas gagné derrière, hein, la finale face à Alcaraz, mais c'était énorme. On en avait fait beaucoup ici sur Novak Djokovic. On n'a pas beaucoup revu depuis, hein. Donc, je rappelle Roland Garros avec le forfait d'Alcaraz cette année. C'est vrai qu'on mise beaucoup sur le Serbe pour essayer de maintenir en vie le suspense face à Sinner, l'ultra favori. À bientôt 39 ans, il a fait sa rentrée sur terre battue à Rome hier et donc surtout son retour sur les courts 2 mois après sa dernière apparition à Indian Wells où il avait été éliminé en 8e de finale. Résultat hier pour Djoko. Défaite en 3-7, 2-6, 6-2, 6-4 face au jeune croate Dino Prismic, 20 ans, 79e mondial. Djoko, finaliste à l'Open d'Australie, n'avait jamais perdu à son entrée en lice à Rome. Les GG, je vous pose la question. Djokovic s'incline pour son retour à la compétition. 2 semaines de Roland-Garros. Est-ce que c'est inquiétant, oui ou non, Alizé Cornet?
Non.
Non, Sarah?
Je vais défendre le non aussi.
Fred?
Oui.
Christophe Cessieux?
Oui.
C'est fou.
Vous dites pour l'instant.
Il y a les connaisseurs et
sur X.
Et boum.
Sur le compte X des grandes gueules du sport, vous dites oui, vous êtes inquiet à 64% pour
surtout
Novak
avec Djokovic. C'est un peu le l'être suprême du tennis mondial. Ah bah on va pas taper sur Djoko.
À chaque fois qu'on l'a enterré, finalement, il y a des coucous, je suis vivant.
En plus. Bien sûr.
Lui aussi est toujours vivant. Notre voix du tennis sur RMC, Eric Salio nous rejoint. Salut Eric.
Bonjour les grandes gueules.
Ça va,
Eric? Salut Eric.
Ça va.
Okay. Toujours un plaisir de te voir, Eric. Ouais. Vraiment.
Merci. Eric, il rentre toujours avec beaucoup d'humilité. Hein. Il met sa chaise très très basse. Il est à un niveau.
Il y a un problème.
C'est Gérard Rolls.
C'est un problème de matériel.
Eric, comment Djokovic a expliqué sa rentrée manquée?
Ben il avait du mal à trouver les mots. Moi, j'ai trouvé son premier set vraiment très très bon. Je me disais, au bout de 2 mois, le mec, il a rien perdu. Et puis, il y a eu un gros coup de barre au début du deuxième. Ça lui a coûté très cher. Et quand il y a eu combat, ben on a senti qu'il manquait pas mal de petites choses. Alors, en conf de presse, il y a une phrase qui m'a interpellé. Il a dit, je ne me souviens pas la dernière fois où je suis arrivé sans problème de santé ou souci physique en amont d'un tournoi. Il y a tout le temps quelque chose. Mais c'est une nouvelle réalité avec laquelle je dois composer. Bah, j'en déduis que, bah, il fait son âge. à 38 ans, tu peux pas t'enfourner les mêmes séances d'entraînement, et je pense qu'il a pas pu préparer comme il voulait Rome.
Et oui, l'autre demande info, à Georges, à 38 ans, ça commence à peser. Voilà. Hein.
Et l'autre, tu peux pas savoir, toi. Hein.
L'autre info, c'est qu'il a décidé de ne pas jouer d'autres tournois. L'an passé, il était allé à Genève. Ah. Il avait gagné Genève. Donc, il va arriver à Roland, passez-moi l'expression, à poil, avec zéro victoire sur terre battue. C'est un pari osé. On va voir ce que ça va donner, mais on peut lui faire confiance. Il connaît son corps, mais si son corps le laisse pas tranquille, moi je vois pas comment il peut rivaliser avec les meilleurs, même s'il reste troisième favori des bookmakers.
Troisième favori des bookmakers, ouais. Toujours.
Merci. J'ai vérifié ce matin, ça n'a pas bougé.
Malgré cette défaite. C'est incroyable.
Tu restes avec nous, Eric. Tiens, Sarah, tu n'es pas inquiète pour Novak Djokovic, pourquoi ?
Pas inquiète parce que je suis comme Eric, j'ai lu ce qu'il a dit en conférence de presse et puis j'ai surtout vu ce premier set où il ne sert pas bien. On sent que l'épaule droite, c'est pour cette raison-là qu'il n'a pas joué ces derniers mois. C'est-à-dire que sans aile, sans servir remarquablement bien, il plante un 6-2. C'est-à-dire que dans le jeu, il était nickel. Après, Eric, tu ne l'as pas mentionné, mais quand tu dis qu'il y a eu un coup de mou, il semblerait qu'il y ait eu un petit problème gastrique.
Il
n'a
pas voulu s'étendre.
Il n'a pas voulu. C'est rare parce qu'il a tendance à.
Sarah, quand tu dis que tu n'es pas inquiète, donc tu penses que Djokovic, tu peux encore durer 2, 3, 5,
non,
10 ans.
Je suis pas
inquiète. On a l'impression que. Non. Voilà, ce mec-là est s'il est cassé de partout, que ses membres commencent un peu à se relâcher de tous les côtés, tout le monde, personne ne veut voir une fin possible ou une fin probable.
Non, la fin
du
va
géant.
Arriver.
Il va continuer
Christophe,
évidemment
mais
à
il est capable,
bien jouer au
il
tennis.
Se connaît tellement
franchement,
bien.
Face à un Sinner aujourd'hui, avec lui, dès qu'il
l'a fait à l'Open d'Australie.
Ouais, je sais,
alors ça ne veut pas dire qu'il va le faire deux fois. Ce que je veux dire, c'est qu'il se connaît tellement parfaitement. Qu'aujourd'hui, il se fixe que quelques objectifs. Les objectifs, ce sont les tournois du Grand Chelem.
Il se connaît parfaitement, mais son corps, il sait aussi que son corps est au même niveau qu'il était il y a 3 ans.
Il a un problème d'épaule. Donc oui, ça peut passer.
Il
avait du mal. Tu te dis, Roland-Garros arrive
assez
rapidement quand même. C'était pas les services habituels.
Mais non, mais il est en train de se préparer. Son objectif, c'est pas Rome, c'est Roland-Garros.
Mais c'est la première fois qu'il n'aura pas gagné un match.
Mais non, c'est arrivé où il était blessé avant.
Où il a pas gagné un match.
Mais ça lui arrive. Mais ça lui arrive. Il se fixe que quelques objectifs. Oui. Aujourd'hui, je pense que Djokovic va jouer Roland-Garros en étant compétitif. Après, je ne vais pas vous dire qui va jouer, qui va gagner, s'il va aller en finale. Okay. Mais quand il rentrera sur le court, il sera compétitif pour tenir 5-7. Alors, ça, j'ai pas
l'impression. Il sera donc compétitif pendant 10 ans encore.
Non, mais tiens, mais je
parle de Roland-Garros. On parle juste de Roland.
S'il est blessé à une semaine de Roland et que vous me dites qu'il va être compétitif,
évidemment que non, il a 38 ans. Je ne fais pas l'avocat du diable bêtement comme ça.
Je vais aller un peu dans le sens de Christophe. À quel moment on s'inquiète pour Novak Djokovic?
Les filles ne s'inquiètent pas pour Djokovic.
Mais en fait, le truc, c'est que Djokovic, il arrêtera le tennis à partir du moment où il sentira qu'il n'est justement plus compétitif. Donc en fait, il n'y aura pas de moment pour s'inquiéter. Puisque lui-même. Laisse-moi finir, Fred, s'il te plaît. Lui-même. Laisse-moi finir, s'il te plaît.
Oui, mais.
Laisse-moi finir. Trois fois. Si tu me laisses finir, je vais développer mon argument, ce sera plus simple.
Il t'aura tort.
Novak.
Vas-y, Alizé.
Novak ne nous laissera pas, je pense, l'opportunité de nous inquiéter parce que lui-même ne supportera pas se voir décrépir, descendre au classement, commencer à galérer. Là, s'il continue, s'il est encore là, s'il s'aligne encore à Roland-Garros, ça veut dire qu'il pense qu'il peut aller dans le dernier carré, voire s'envoyer le tournoi. Moi, je suis complètement d'accord avec Sarah. Il se connaît. Il sait où sont ses limites. Il commence à apprivoiser ce corps vieillissant. Certes, c'est une réalité pour tout le monde. Non, pour répondre à ta question, Christophe, il ne sera pas compétitif pendant 10 ans. Parce que certes, c'est un surhomme, mais c'est pas non plus,
c'est pas Superman.
Superman. En tout cas, là, pour les 2 semaines à Roland-Garros, moi, je pense qu'il arrivera suffisamment en forme pour donner du fil à retordre aux meilleurs mondiaux.
Tu peux arriver.
Donc, ce n'est pas inquiétant.
Super forme sans disputer un match,
Mais il a 25 ans de tennis derrière. Il a une confiance. Alors on parlait de mentalité de champion. Je ne lâcherai pas ce duel avec Christophe pas cette fois. On parle de mentalité. On parle de mentalité de gagnant. Pour le coup, Novak, c'est exactement ça qui l'anime. C'est la mentalité de gagnant et il n'a pas besoin de se prouver qu'il peut gagner un match de plus à Genève, quand bien même il l'a fait l'année dernière, parce que je pense qu'il en avait besoin physiquement pour se rassurer. Là, il sent qu'il a peut-être...
T'as pas besoin de réglage quand
t'es Novak Djokovic, t'as pas besoin de réglage. Surtout qu'il va faire des matchs en 3-7 gagnant, il aura le temps quand même de se mettre dans le rythme. Voilà, l'essentiel, je pense, c'est de se rendre compte que lui-même n'arrivera pas à ce point où à un moment donné on va se dire voilà vraiment voilà
c'est ce qui est arrivé avec Nadal et Federer qui étaient blessés
mais c'est pour ça que je pense qu'il va le gérer différemment je pense.
Est-ce que vous êtes inquiet pour Novak Djokovic à 2 semaines de Roland Garros? Je vais tout de suite enlever, attends, je vais prendre le temps, la muselière qu'on a mis sur Fred Weiss, qu'a lisé lui a mis pour libérer la bête qui se retient depuis tout à l'heure. Fred retient ses coups.
Non, tout simplement comme je l'imaginais, Alizé n'a pas du tout répondu à ma question.
Je l'ai même pas entendu ta question, tu parles en même temps que moi.
Mais tu vois, tu me laisses pas parler. En fait, c'est ça ton problème. Tu ne laisses pas parler les autres et tu reproches aux autres de pas laisser parler. Fred. Donc, juste pour revenir à ce que je disais, c'est que j'ai posé une question à Lisée et elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais développer, je vais vous expliquer. Elle, non, en fait, ma question c'était, comme tous les autres tennisman ou sportifs en général, il ne va pas s'arrêter trop tard. Non, bien sûr, comme tous les autres, il ne fera pas les matchs de trop. Non, bien sûr. Moi, j'ai une référence assez simple. Michael Jordan, le plus grand sportif de l'histoire peut-être. Ben, je suis désolé, quand il est revenu, quand il a recommencé à jouer, c'est des matchs de trop. Et tout Michael Jordan qu'il était, il n'a pas réussi à performer comme il le souhaitait.
Ben attends, parce qu'à un moment, il jouait il y a 2 mois. Hein. Il n'a pas arrêté pendant trois ans.
Parce qu'à un moment, je suis désolé, il y a une limite de l'âge, il y a une limite physique. Et là, alors, il est en train de le montrer, ne pas avoir gagné. Je suis désolé aussi avec Sarah, qui nous le disait tout à l'heure. C'est la première fois qu'il va s'aligner à Roland-Garros sans avoir gagné un match sur terre battue avant. Alors oui, c'est donc Novak Djokovic. Oui, sauf qu'il a 38 ans. Alors, oui, il vieillit. Oui, le physique commence à l'atteindre. Donc, j'en ai marre de ces gens qui sont dans le rêve absolu et qui pensent que Novak est un super-héros.
Mais tous les ans, on l'enterre. Tous les ans, on lui dit qu'il est terminé dès qu'il fait un premier tour.
Je suis inquiet. C'est pas que c'est
mais on a la chance d'avoir 2 experts de tennis et Eric avec nous aujourd'hui. Non mais est-ce que justement la question tennis, non mais est-ce que la question se pose pas d'autant plus, mais alors vous êtes assez sereine et très bien pour le coup, on vous écoute, mais on entend beaucoup que la terre battue c'est la surface peut-être la plus contraignante pour les joueurs. Est-ce que un Djokovic justement c'est peut-être le grand chelem le plus contraignant pour lui? On est d'accord
Oui, mais en fait,
le Roland Garros.
C'est pas parce qu'il, s'il avait gagné
parce
hier.
Parce que si c'était l'Open d'Australie, on se poserait peut-être pas la question. C'est ça que je veux dire. Sur, en gros, il a peu de matchs avant. D'ailleurs, il a pas fait beaucoup de matchs avant l'Open d'Australie.
Non, mais il faut qu'il bouffe de la terre pendant 15 jours. S'il fait rien, là, je suis d'accord avec toi.
Il va faire des sets d'entraînement contre plein de joueurs. Il va y avoir autant de sparring partners que nécessaire. Ce qu'on explique, c'est pas parce qu'il a perdu ou il aurait gagné hier que ça change, nous, notre perception de se dire que il va être compétitif à Roland. Cette victoire, en plus ou en moins, ça aurait été un bonus. Il le dit lui-même. Mais ça n'empêche pas qu'il va se préparer et il va s'entraîner. Et c'est pas parce qu'il a pas gagné un match. Des matchs sur terre battue, il en a gagné des centaines. Il connaît le terrain par cœur. Il connaît son corps. Donc, ce qui va lui manquer, c'est de jouer des points. Mais c'est pas la pression de la compétition qui va lui manquer.
Tu dis qu'il connaît son corps, mais lui-même précise dans son interview qu'il est obligé de composer avec des nouvelles façons. Mais donc, il connaît son corps, mais son corps évolue aussi. Et il le reconnaît lui-même.
Mais bien sûr,
donc,
il ne peut pas.
Donc, ça peut être un peu
inquiétant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
On était inquiet avant les Jeux de Paris 2024 quand il se présente avec son problème au genou.
Donc, on a droit d'être inquiet.
Mais alors,
ça ne veut pas dire qu'il ne performe pas.
Mais que tu sois inquiet, c'est une chose. Nous, on ne l'est pas, en fait.
Oui, voilà. Vous avez le droit de vous.
Mais alors, est-ce que, parce que genre, je posais la question à Eric il y a quelques semaines.
C'est les ravis de la crèche.
Quand Djokovic.
Bah, franchement, c'est limite manque de respect, tout calme.
Ils ont joué au tennis. Quand Djokovic était hors des terrains, quand il ne jouait pas, quand il était en train de récupérer, moi, j'avais posé la question à Eric. Je lui disais, est-ce qu'on peut imaginer un Djoko maintenant qui en fait s'aligne que sur les grands chelems? Est-ce qu'il a encore vraiment besoin de faire des Masters 1000 à son âge, avec le besoin justement de préserver? Est-ce qu'un Djoko aujourd'hui pourrait ne faire que les grands chelems et arriver en étant compétitif? Est-ce que vous y croyez, vous, avec l'expérience qu'il a?
Alors que les grands chelems, c'est un peu exagéré. Il va falloir qu'il joue quand même quelques tournois.
Parce que là, c'est presque le cas en fait. Il arrive pratiquement il a joué quoi à l'Indian
Wells. Il se gère parce que son objectif, il ne l'a pas caché, c'est de tirer si possible jusqu'à Los Angeles. Et forcément, il a 38 ans, il a de la bouteille, son corps est usé, deux ans c'est long.
Deux ans c'est long.
Il peut pas jouer, il peut plus jouer 20 tournois par an, c'est fini ce temps-là. Ouais. Mmh. Après, effectivement, il commence à avoir des bobos, il le dit lui-même. Moi, j'irais pas jusqu'à dire qu'il connaît son corps parfaitement, parce que je pense aussi qu'il a effectivement apprivoisé ce qui est en train de se passer, ses nouvelles douleurs. Mais en tout cas, tennistiquement, il se connaît suffisamment pour savoir quand il doit s'aligner sur un tournoi ou pas. Et son objectif, c'est pas de faire premier tour à Roland s'il n'est pas prêt.
Il n'ira pas.
Il n'ira pas.
Ouais,
et cette défaite, on l'a tellement de fois enterré sur des défaites comme ça au premier tour, alors qu'il joue contre un jeune, et tu vas nous le dire, Eric, qui joue extrêmement bien, un jeune prometteur qui est sur une pente ascendante.
Eric, vous avez dit hier, attention au piège pour
voilà,
Djokovic.
Voilà, et ben, on sent que l'on sent le spécialiste.
Dans les paris RMC, hein, donc, prise 8 vainqueur, hein, ça payait très bien.
Donc il ne perd pas non plus contre n'importe qui. Voilà.
Alizé, j'ai une question pour toi. Enfin, pour toutes les deux d'ailleurs, enfin, pour, limite pour tous les trois, mais plutôt pour les deux anciennes joueuses. Est-ce que tu peux comprendre que nous, de l'extérieur, on se dit, s'il n'avait pas joué ce tournoi et qu'il allait Roland Garros, on aurait été moins inquiet que de le voir dans cet état-là?
Oui.
Sur ce tournoi, alors la défaite, la victoire, vous avez raison, il n'y a pas d'importance, mais je trouve que son état physique, sa façon dont il a géré deuxième set, on
oui,
a l'impression qu'il
n'est
pas
normal,
bien, qu'il a mal à l'épaule ou au ventre, on sait pas
mais,
trop.
Mais tu as raison, un observateur a besoin de référence. Si tu me demandes de juger un coureur cycliste, savoir qui va faire que le Tour de France, on a fait combien de sujets sur Vingegaard qui est arrivé que sur le Tour de France et qui s'était pas préparé,
et qui a été performant derrière,
mais,
ouais. Alors qu'il y avait une grosse blessure.
J'étais la première à dire, mais sérieux, comment Vingegaard il peut être compétitif, est-ce que il va pouvoir challenger Pogacar? J'étais la première à dire je vois pas, il a pas couru avant, comment il peut savoir.
On a ce point de repère,
mais bien sûr,
en disant
c'est normal,
fait de jouer nous inquiète plus que s'il avait pas joué, limite.
Et nous on vous apporte des arguments en disant qu'avec les années aujourd'hui, d'avoir un match de plus ou un match de moins ne change pas dans l'esprit le fait qu'il va être compétitif s'il rentre sur le court.
Oui, mais l'état qu'il a, enfin, en fait moi c'est, je dis l'année, c'est la victoire,
les bobos,
la défaite, n'importe peu.
Les bobos il en a depuis une dizaine d'années. L'année dernière c'est quand même 3 demi.
Deux fois,
et
il nous l'a fait.
Ouais, mais
rendez-vous compte qu'il
bien
vous
sûr
savez
ça
qu'il
va s'arrêter.
Il vieillit et les bobos sont de plus en plus conséquents. Et là, on l'a vu vraiment les limitations sur le deuxième set. Moi, je trouve que c'est.
Mais Novak
Djokovic, il y a 4 mois, il battait encore Sinner en 5-7. Et là, en 5 mois, il ne s'est pas passé. Il n'a pas vieilli x10 en 5 mois.
Non, mais
tu sais pas ça.
Alors, par contre, Alizé, là, je ne te donne pas raison du tout. Il peut arriver que tu vieillisses plus vite sur des périodes de la vie. Donc, physiquement, moins jouer, être moins sur les cours. Ça peut te faire vivre.
Et d'ailleurs,
il veut vraiment qu'on.
Mais de toute façon.
Mais moi, depuis le début de ce débat, j'ai 50 ans.
C'est un faux débat parce que plus le temps passe, évidemment, et plus ça rapproche Novak de la fin. Voilà, enfin, tu vois, c'est lui-même le sait, tout le monde le sait, mais de là à se dire à 2 semaines de Roland parce qu'il a fait premier tour à Rome, c'est inquiétant.
Est-ce qu'on est plus ou moins
inquiet?
Voilà. Encore une fois, c'est pas
JB au 32-16. JB au 32-16 vous appelle, il est prof de tennis en Vendée. Salut JB.
Ouais, comment ça va?
Ça va,
écoutez, ouais, l'histoire avec la Vendée va bientôt se terminer là, parce que bon, j'étais dans un club où et en fait, ça s'est pas si bien passé que ça, parce que avec les enfants maintenant c'est un peu compliqué et en fait on donne un petit peu plus droit aux enfants qu'à l'enseignant. Donc voilà, l'histoire va un peu se terminer.
Tu voulais passer ton message?
Ouais, voilà, j'ai passé mon message. Ouais. Alors Novak, alors moi j'ai un petit débat. Déjà bonjour Alizé, bonjour Sarah. Je suis fan de Georges. Comme ça pour
voilà.
Voilà. Tiens, et Alizé, je me rappelle que à une époque tu m'avais donné ta Storm, la Babola, et je te remercie parce que je l'ai toujours.
Incroyable.
Voilà.
Incroyable. C'est une super raquette.
Mais, et moi, je t'avais vu gagner en junior. Donc, j'étais juste à côté. Tu m'as vu check à la fin et tout. Donc, super souvenir. Et donc, voilà.
Bon, j'y vais sur Djokovic. T'es pas inquiet, toi?
Mon petit Fredo. Je dis bonjour à mon petit Fredo. Fredo, on se connaît.
C'est la famille. Ouais. Eric, salut, tu l'aimes bien ou pas?
Ouais, Eric,
super sympa. Sarah Pitkowski, sympa.
On se connaît aussi avec Sarah. Bah, oui,
Christophe, il a été mis au coin là depuis qu'il s'est fait un peu disputer. Tu l'aimes bien, Christophe?
Mais non, mais Christophe aussi, il le sait.
Ah, mais c'est super. Allez, JB, t'es inquiet pour Djoko ou pas?
Donc moi, j'ai argumenté par rapport aux filles et puis les avis divers. Donc moi, je pense que Novak, c'est un peu la même danse chaque année, et on a l'impression que il a envie de vivre quelque chose qu'il a déjà vécu mais qui avait du mal à revivre. Du coup, je m'explique, hein. C'est que je pense que il aimerait aller plus loin, il aimerait revenir arriver à à vivre ce qu'il avait vécu, mais là, ça devient tellement compliqué. Et puis avec cette nouvelle génération qui est vraiment très, très, très bien préparée, ça devient encore
mais
plus préparé.
Alors moi, je suis d'accord, JB, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde oublie, et c'est ce que disait un peu Sarah et Alizé, hein, qu'il était en finale de l'Open d'Australie il n'y a quand même pas si longtemps, quoi, Djokovic. C'est-à-dire qu'on... On est en train peut-être
avec
de
pas
se
mal
dire.
De réussite. Hein.
Avec pas mal de réussite.
Mouzetti 2-7-0 se blesse.
Non, mais Sinner a eu la même réussite l'année dernière à Wimbledon. Ça peut arriver. Après,
il n'y a pas eu de réussite contre Sinner.
Je te rejoins sur le fait que la terre battue, c'est quand même une surface beaucoup plus exigeante, entre guillemets, pour le cardio et voilà, pour les rallyes que le dur. Ça peut compliquer la tâche. Mais pardon, JB, vas-y, tu peux.
Non, mais Djokovic, il n'a pas en tête aussi que Alcaraz n'est pas là cette année. Et que c'est quand même une fenêtre, peut-être une dernière fenêtre pour faire un truc à Roland-Garros.
Évidemment, le fait qu'Alcaraz soit pas là, ça laisse une petite porte. Ça dépend encore de ce fameux tirage au sort. Tout va se dessiner jeudi dans 15 jours, c'est ça. Hein.
C'est ça.
Dans 15 jours, on pourra spéculer. Là, on spécule sur.
Il a une chance sur deux d'être dans la partie de tableau de Yannick Sinner.
Ouais. Les grandes gueules du sport. On a 2 semaines de Roland Garros. Djokovic s'incline au premier tour à Rome. Est-ce inquiétant? Vous restez sur un oui à 65%. Bon, alors, c'est surtout l'approche de Roland, je pense. Et, vous savez, c'est quoi surtout? C'est que je pense que le public se dit. C'est quand même notre espoir pour que Sinner soit un peu bousculé. Et s'il n'est pas à 110%, ça va être un peu difficile. Elle doit être à l'inquiétude aussi. Allez les GG, on peut continuer de parler de tennis tout de suite. Est-ce qu'on a peur d'un boycott à venir des grands chelems? On revient dans un instant dans les grandes gueules du sport. Alex, salut, reste avec nous. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on butait les ravis de la crèche du sport ce matin avec Christophe Cessieux, notre ravi numéro 1. Ravi numéro 1, Fred Veil. Fred Veil, c'est plutôt c'est grincheux. Hein. Grincheux, franchement, mais c'est grincheux qui prendrait un protagonisme incroyable dans Blanche-Neige et les Trépas. On ne verrait que lui, tu sais. Attends, Blanche-Neige, attends, quoi? Oh, laisse tranquille. Sarah Pitkowski.
De la crèche, c'est pas les 7 nains. Hein.
Je sais, mais là j'ai un peu dévié parce que je trouvais que Grincheux, ça lui allait quand même très très bien. Sarah Pitkowski, Alizé Cornet, le groupe vit bien. Ne vous inquiétez pas, on est là. Voilà, on est comme dans un vestiaire, hein. Parfois, on est là. Voilà, c'est ça.
On fait une private joke. Il y a un extincteur ici ou pas?
Attention, ouais, parce que c'est pas forcément la bonne chose. En tout cas, ne videz pas un extincteur sur moi, s'il vous plaît. On fait pas ça partout.
Oui, on fait pas ça partout.
Et salut, restez avec nous parce qu'on continue de parler de tennis. Un mot très fort a été agité sur la planète tennis ces derniers jours. Hein. Le mot boycott des grands chelems pour obtenir une meilleure répartition des revenus. Un collectif de joueurs a fait part en début de semaine de sa profonde déception à propos de la hausse de la dotation prévue à Roland-Garros. Punchline signée de la numéro 1 mondiale, Aryna Zabalenka.
RMC, la punchline GG.
C'est certain, quand je vois les chiffres et les montants que les joueurs reçoivent, il me semble que c'est nous qui faisons le spectacle, que sans nous, il n'y aurait pas de tournoi et que ce ne serait pas le même divertissement. Je pense vraiment que nous méritons de toucher un pourcentage plus élevé. J'espère simplement que grâce à toutes les négociations en cours, nous parviendrons à un moment donné à trouver la bonne décision, à une conclusion qui satisfera tout le monde. Et je pense que nous finirons par boycotter. J'ai l'impression que ce sera la seule façon de nous battre pour nos droits.
Ouais, c'est des mots forts quand même, annoncés par un numéro 1 mondial. Quand on est à 2 semaines de Roland-Garros, là, on agite ce mot de boycott. Est-ce que c'est une menace vraiment sérieuse, Sarah?
Elle est à prendre très très sérieusement.
Alizé Cornet?
Je dirais plutôt non.
Frédéric Weiss?
Évidemment.
Évidemment quoi?
Évidemment que oui.
Ah, évidemment que oui.
Bah, évidemment, c'est...
Je dirais plutôt non.
Ouais. Alizé, arrête de couper le micro de Christophe, on a bien compris où tu voulais en venir. Eric Salio est resté avec nous, notre voix du tennis. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui pour les joueurs, Eric? Pourquoi est-ce que Zabalenka utilise un mot aussi fort?
Alors, on va essayer de revenir à la genèse. Il y a 3 semaines, lors de la présentation de Roland Garros, Amélie Mauresmo était plutôt fière d'annoncer une dotation globale de près de 62 millions d'euros, soit une augmentation de 9,53 par rapport à 2025. Le problème, c'est que le chelem parisien génère près de 395 millions de recettes grâce aux droits TV, les hospitalités. Faites le calcul, la redistribution vers les joueurs est plutôt modeste, environ 15%. D'où cette lettre assez virulente envoyée aux ordinateurs. Vendredi, la prise de parole du numéro mondial Yannick Sinner était très attendue. L'Italien a fait comprendre que la plaisanterie avait assez duré.
Il s'agit là de respect, parce que nous donnons beaucoup plus que nous recevons. Il ne s'agit pas seulement des meilleurs joueurs, mais bien pour tous les joueurs. Et ce n'est pas normal qu'après un an, nous n'ayons pas trouvé de solution. Nous sommes déçus de la situation par rapport à Roland Garros. Attendons de voir également ce qui se passera dans les prochaines semaines avec le prize money de Wimbledon et l'US Open, en espérant que cela soit meilleur. Effectivement, les joueurs parlent de boycott. Il est temps que les choses bougent.
Sans réclamer une redistribution identique au sport US, et Fred en parlera, je pense, les tennisman attendent un geste, car ils pensent aussi aux plus fragiles, à l'image de cette déclaration de Coco Gauff. C'est triste de constater que des joueurs du top 200 peinent encore à joindre les deux bouts. Je veux laisser ce sport en meilleur état que je ne l'ai trouvé. Il y aura probablement une réunion à Roland-Garros, mais la tension est palpable, et cela met la pression sur Wimbledon, qui ne va pas tarder à divulguer son prize money.
Intéressant, merci Eric Salio. On a compris que la plaisanterie avait assez duré pour Yannick Sinner, visiblement. Est-ce que la menace de boycott est vraiment sérieuse? Là, quand ce mot est agité, on est à deux semaines de Roland-Garros, évidemment, quand on parle des grands chelems. Alizé, c'est vrai que toi, en plus, encore récemment, quand tu étais joueuse, assez souvent entendu parler, même pour parler au nom des joueurs. Est-ce que c'est sérieux, ça?
Alors, ça peut le devenir, mais moi, par expérience, j'ai souvent entendu beaucoup de mécontentement de la part de mes pairs et beaucoup de rumeurs de boycott. Et malgré tout, ça ne s'est jamais produit. Parce que je pense que dans ce sport individuel, c'est très difficile pour les joueurs de se mettre tous ensemble pour la même cause. Et même quand il y a eu des gros clashs, quand il y a eu des énormes mécontentement, on n'a jamais réussi à faire corps suffisamment pour faire changer les choses. Là, c'est peut-être différent. Peut-être qu'avec Sabalenka et Sinner en chef de file, qui ont l'air quand même de pester contre le prize money de Roland, ça va changer les choses. Moi, j'ai du mal à le croire, parce que ça va être difficile quand même pour certains joueurs de les convaincre de ne pas aller gagner leur prize money à Roland, surtout ceux qui galèrent. Et c'est ça le plus difficile, c'est vraiment de rallier tout le monde. Donc j'ai tendance à dire non. Après, je pense que c'est surtout un coup de com' pour mettre la pression sur les futurs tournois du Grand Chelem, pour leur dire, écoutez les gars, on n'est pas les ravis de la crèche, justement. On va pas se laisser marcher sur les pieds. Et on va vous faire comprendre qu'on peut être acteur aussi, et qu'on peut vraiment vous faire peur. Mmh. Voilà, c'est de la menace pour
moi. Tu prends ça au sérieux ?
Oui, je prends ça au sérieux. Déjà parce que cette revendication, c'est un vieux serpent de mer. Hein. Elle date pas d'il y a quelques semaines. Ça fait déjà quelques années, et ça fait plus d'une année qu'aujourd'hui les joueurs réclament. Alors, on va pas parler de prize money, une meilleure répartition des recettes que génère.
22%, ils en ont que 15 pour l'instant.
Que génère. Alors, 15%, c'est 15% réparti sur toutes les épreuves d'un tournoi du Grand Chelem. Pour le tableau final, donc ceux qui vendent la billetterie, ceux qui vont le spectacle, ce n'est que 7%. Ce n'est que 7%. Donc un joueur ou une joueuse qui passe autant de temps sur le court pendant 15 jours va avoir un prize money de l'équivalent de 7% des recettes de Roland-Garros.
Ce avec n'est les pas droits la même... et les compagnies.
Exactement.
Intégrées.
Exactement. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre.
C'est joueur, pas la même limonade.
Je veux dire que Coco Gauff, quand elle gagne, ou Alcaraz, ils vont pas chipoter, ils vont pas chipoter pour leurs 2,8 millions d'euros qu'ils vont remporter. Je pense qu'ils en sont pas à ce niveau-là. C'est qu'aujourd'hui, les joueurs de tennis génèrent un business qui est conséquent. Que les grands chelems aujourd'hui ne sont régis que par eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est une caste de 4 tournois du Grand Chelem, et que chacun fait ce qu'il veut de son côté. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent peser. Quand on dit boycott, j'entends pas que les joueurs vont pas rentrer sur le court, mais il y aurait plein de manières de faire des boycotts. Aujourd'hui, un joueur de tennis, son temps n'est pas uniquement sur le court. On lui demande de faire des conférences de presse, on lui demande de faire des animations, on lui demande d'être là aussi pour l'entertainment. Il pourrait, à un moment, les joueurs en disant « Ok, on est payé que ça », et eh ben notre prestation, elle va s'arrêter au rectangle orange.
Et ils vont prendre des amendes.
Oui, ils prendront peut-être des amendes aujourd'hui, mais si t'en as plusieurs qui le font, à un moment, ça peut peut-être peser.
Mais effectivement, qui peut se permettre de
faire. Rallier
c'est ça, voilà. Tout le monde ne veut pas se permettre de.
Mais tout le monde va rallier, les meilleurs.
Elle avait renoncé à ses obligations médiatiques.
Et elle avait eu une amende.
Mais c'est les meilleurs qui vont peser à un moment ou un autre. Juste pour comparer par rapport aux autres sports, et Fred va aussi le savoir, puisque le fameux lockout de la NBA a existé.
La grève.
Les sports américains touchent quasiment pas loin pour même 50% de ce que ça génère. 7%, 50%. Aujourd'hui, les tournois ATP et WTA reversent 22%. Le gap, il est énorme. C'est-à-dire que tu peux pas générer toujours plus de bénéfices, mais ce que tu reverses, la quote-part, elle n'est pas équivalente. C'est normal qu'à un moment, ça s'élève. C'est normal, et c'est normal que ça ne soit pas le 90e joueur mondial qui va dire, au fait, moi, je ne vais pas rentrer sur le cours, je ne vais pas prendre mes 87 000 euros au premier tour.
Oui, oui, bien sûr,
c'est
évidemment.
Normal. C'est pour ça que les 10 meilleurs, c'est important qu'aujourd'hui, leur voix pèse.
La menace de boycott est-elle sérieuse des grands chelems, là, effectivement, dans deux semaines de Roland-Garros, donc c'est pour ça que bah, ça fait parler. Elle sait très bien ce qu'elle génère, Aryna Sabalenka, hein, en parlant à ce moment-là de la saison. Fred, toi, tu prends ça au sérieux parce qu'effectivement, Sarah le disait, en basket, en NBA, en WNBA aussi, chez les filles, il n'y a pas longtemps.
Ou NFL.
Non, mais voilà, il y a cette culture de la grève, en fait, hein, de la menace du lockout.
Évidemment, il faut quand même se rappeler que ceux qui génèrent cet argent, c'est les acteurs qui sont sur le terrain, sur le court, sur la pelouse, peu importe. Il faut quand même se rendre compte de ça. Et moi, je suis très favorable à cette grève et je souhaite vraiment, et je suis ravi que Sabalenka, Sinner, des joueurs et joueuses de ce calibre-là s'expriment sur ça. Parce qu'effectivement, c'est plus difficile quand t'es centième mondial. Mais à un moment, il faut quand même se rendre compte que c'est quoi ton billet de négociation? Ton seul billet de négociation quand t'es joueur de tennis, c'est « je ne joue pas ». Alors oui, c'est
sportif
difficile.
En général, en fait.
Sportif en général. Mais
c'est comme quand vous êtes travailleur dans n'importe quelle entreprise, c'est je ne viens pas travailler.
Je ne viens pas travailler parce que.
Et puis le droit de grève, on connaît.
À un moment, tu as plus rentré de bénéfices. En fait, en NBA, quand vous avez parlé de lockout, donc cette grève. Les propriétaires se sont dit, il va peut-être mieux falloir se mettre autour d'une table pour négocier, plutôt que de dire, on va perdre une saison entière de bénéfices, etc. Donc, je pense que c'est très important. Et j'entends ce que tu dis, Alizé, quand tu dis, c'est vrai que ça s'est jamais fait. Sauf qu'à un moment, il va falloir que ça se fasse. À un moment, il va falloir comprendre que les tennisman et tenniswoman, vous êtes ensemble sur certains projets, quand même. Et que cette caste des grands chelems ne doit pas avoir le pouvoir sur vous. C'est vous, les acteurs. C'est vous qui méritez cet argent. Et c'est vous qui devez avoir cette revalorisation. Un exemple concret, dernièrement. Nous, on a la WNBA, donc les femmes qui jouent en NBA, qui touchaient moins de 10%. Des recettes. Elles ont menacé de grève. Ben je peux vous assurer que d'un seul coup, les propriétaires ont trouvé de l'argent. Hein. D'un seul coup, ils ont revalorisé. Alors oui, les syndicats sont plus faciles à trouver dans le basket parce que c'est sport co et on est payé. Je l'entends tout à fait. Sauf que si vous ne trouvez pas cette solution,
on a pour travailler entre
nous, une discussion, c'est
compliqué quand même.
Sinner disait, en fait, on a envoyé une lettre il y a un an, on n'a même pas de réponse. Ouais. C'est-à-dire que là, on ne rentre même
c'est
pas dans des
de
discussions.
Respect,
mais il y a quand même une évolution, Sarah, sur les 15 dernières années en Grand Chelem. On gagne beaucoup mieux notre vie.
Exactement.
Et donc, il s'est quand même passé des choses.
Oui, mais l'évolution des choses.
Pas que négatif. Il y a eu aussi cette équité entre les hommes et les femmes. Du temps où je jouais, il n'y avait pas le même prize money pour les hommes et pour les femmes. Donc il y a eu des grandes avancées. Mais les avancées, elles ne sont pas corrélées finalement aux bénéfices qui sont générés. Juste pour aussi te donner un autre sport qui reverse plus que le tennis, qui est un sport individuel, c'est le golf. Exactement. On est à 23%.
Alors que c'est un sport individuel,
hein, justement, dans un sport
comme
individuel.
Le tennis. Donc, Christophe,
s'il vous plaît, reprenez avec moi ce refrain.
Oh, purée, j'entendais chez moi cette chanson. Ma mère l'a chantée.
L'international
sera le genre humain.
Voilà, ça, c'est la lutte sociale, c'est les syndicats, c'est tout ça. On comprend, vous, les damnés de la terre, que vous vous révoltiez contre ces.
J'étais sûre que t'allais prendre cette position, mais j'étais tellement sûre. C'est pour ça que je voulais exposer mes arguments avant, parce que sinon, il aurait réduit au fait de dire vous gagnez déjà assez d'argent dans le tennis.
Sarah, elle est risible, cette position. Parce que c'est pas sous prétexte que les gens gagnent des millions qu'on doit donner à des gens qui ne font rien.
Je préfère les acteurs du sport sans les sportifs.
Le sport n'existe pas.
On est d'accord, Fred.
Les autres gagnent de l'argent.
On est d'accord, Fred.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est bien payé, Christian. Parce qu'il apporte beaucoup à cette émission. Et c'est pour ça qu'il est mieux payé que nous. Et ben voilà. Et lui, il va pas faire grève. Nous, on va faire grève. Il va pas assez payé, d'ailleurs.
Le vrai scandale, c'est qu'un joueur classé 150e mondial, donc un excellent joueur de vie, ne gagne pas bien sa vie.
Et en fait, j'allais rebondir là-dessus. C'est très important ce que Coco Gauff, elle dit. Je pense que c'est le point le plus important. C'est pas forcément, si c'est forcément l'argent global, mais c'est aussi comment il est redistribué, parce que tout est au sommet de la pyramide, pardon. Mais finalement, dans les qualifs, ce n'est pas suffisant pour laisser une chance à des joueurs 150, 200 dans les premiers joueurs, dans les premiers 200. les joueurs ne peuvent pas se payer de coach, se payer de staff.
L'important,
c'est terrible.
Tu sais, quand tu passes un tour, un Roland, quand tu es un 100 grades, bah, tu peux payer un entraîneur pendant plusieurs mois.
Le problème.
Mais c'est eux qu'il faut aider.
Oui, c'est ça, on est d'accord.
Christophe, un mec ou une nana qui est dans les 100 meilleurs mondiaux de son sport, déjà ne peut pas être un 100 grades. On n'est pas un 100 grades quand on est en 100 mondial.
Non, mais il y en a quand même qui ont du mal à joindre les deux bouts,
on est d'accord,
à payer
mais c'est
des entraîneurs et tout ça.
C'est
non, évidemment, quand tu es dans les 100, oui, mais dans les 200, 300, là, c'est un peu plus compliqué.
La menace de boycott est-elle vraiment sérieuse des grands chelems à 2 semaines de Roland-Garros? Ce sera un sujet certainement que l'on va continuer de suivre. Peut-être pas pour Roland-Garros, mais peut-être pour la suite, effectivement. Parce
il y aura peut-être des manifestations, je ne sais pas. Il faut qu'ils aient des imagination, les joueurs, là. Boycotter les interviews d'après-match, des trucs comme ça. C'est une idée.
T'as pas envie de bosser?
Non, sur le cours. Sur le cours. Ou même en salle de presse.
Oui, boycotter
Marion Bartoli qui vient interroger les joueurs à la sortie du.
Ah, bah ça lui ferait tout, là, Marion. Hein.
Oh là,
cette année, il y aura même Caroline Garcia.
Elle va leur filer des coups de raquette.
Oh là là, c'est incroyable. Attendez. Mais voilà, on est tous là. Je crois que peut-être Julien Benneteau, il sera peut-être pas très loin à un moment donné. Merci Eric Salio à 2 semaines de Roland Garros. Et merci à Christophe Cessieux pour cette intervention musicale assez inattendue. Il y a désormais des effets spéciaux qui accompagne Christophe pour le magnifier encore un peu plus, alors qu'il l'est déjà magnifique.
Ça
a
énervé Fred, il lui pousse des boutons quand il entend ça.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, dans un instant le vestiaire, on va parler de l'importance de créer sa propre histoire quand on est sportif de haut niveau, comme Sexas l'a fait en annonçant parfaitement sa participation au tour cette semaine. On est toujours avec Fred Weiss, avec Sarah Pitkowski, Alizé Cornet et le retour du Tchégué Cessieux aujourd'hui dans les grandes gueules du sport. Tout de suite, j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport, j'y crois pas.
Les GG en NBA, les Spurs de Wemby vont facilement se qualifier en finale de Conférence Ouest.
Ouais.
Ça
J'aimerais y croire, mais j'attends ce que va me dire Fred, mais j'y crois.
Alizé, qui est une fan d'NBA depuis 5 ans, est-ce que Wemby va se qualifier facilement en finale de Conférence?
Oui, j'y crois.
Christophe Cessieux?
Facilement, j'en sais rien, moi. Bon, j'ai vu le premier match, m'a un peu inquiété, puis bon, ça va mieux depuis, mais bon, Fred va nous dire, hein, c'est lui le spécialiste. Moi,
c'est lui qui dort pas, hein.
Fred,
qui regarde les matchs la nuit.
Est-ce que les Spurs vont facilement se qualifier? Oui, ou non? Ils vont se qualifier,
ah ouais.
Ils vont être champions ou non?
Attends.
Ils vont se qualifier.
Ouais. T'as d'autres questions?
Est-ce qu'ils vont avoir la bague?
Ah bah oui, mais si t'es champion, t'as une bague.
Oui,
ah bah
ça. Oui.
Jamais, peut-être avec les restrictions.
Succès 115-108 pour San Antonio sur le parquet de Minnesota cette nuit. L'équipe du Français mène 2-1 dans la confrontation. Je rappelle que la première équipe a 4 points se qualifier au tour suivant. Wemby, 39 points, 15 rebonds, 5 contre et une déclaration après le match qui m'a bien plu.
J'attendais vraiment de vivre ces moments-là, ces matchs à enjeu depuis que je suis arrivé dans la ligue. C'est ça que j'adore, je suis fait pour ça. J'aime ça plus que tout au monde.
Je suis fait pour ça. Wemby en kiff total après avoir gagné le match 3 contre les Timberwolves, Fred.
Oui, joueur fantastique, un joueur incroyable qui fait une performance sur ce match 3 juste incommensurable. 39 points, 15 rebonds, 5 comptes, c'est du quasiment jamais vu. C'est sa première participation au play-off. Mais pour revenir à la question initiale, je sais pas si facilement c'est le terme, parce que en face il y a une vraie équipe. Minnesota c'est une équipe sérieuse, avec Rudy Gobert notamment, qui est quand même le 4 fois meilleur défenseur de la Ligue. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils nous montrent des choses assez incroyables. Sur le premier match, ils sont à très peu de gagner. Ils perdent alors qu'ils ont le dernier shoot. Dans la foulée, ils mettent la misère à Minnesota, mais vraiment la misère, en leur expliquant comment on joue au basket. Et sur ce match 3, où tu te dis que Minnesota a la capacité de revenir, directement, ils rentrent dedans. Ils sont bien meilleurs dès le début. Et donc, dans l'absolu, j'ai envie de dire que oui, ils vont passer. Je pense que...
Le prochain match, il est où?
À Minnesota. En fait, c'est 2-2 pour commencer.
S'ils arrivent à gagner 2, un back-to-back en déplacement...
Exactement.
Tu prends une sacrée option si tu tournes à 3-1,
non? Surtout que ça fera 3 matchs gagnés de suite, ouais. en excluant le premier. Je pense que cette équipe a vraiment ce potentiel. Cette équipe a vraiment le potentiel de gagner contre Minnesota, encore une fois, qui est une très belle équipe malgré tout. Mais ce qu'ils sont en train de montrer, ces jeunes-là qui découvrent les playoffs, moi, je suis bluffé. Je suis sous le charme absolu. Je pensais qu'ils auraient des difficultés. Ils l'ont eu sur le premier match. Encore une fois, le match était très serré. Mais ils ont montré directement leur caractère. C'était la première fois qu'ils étaient dos au mur, parce que ils avaient perdu l'avantage du terrain sur le premier match. Et là, ils l'ont récupéré avec la manière à Minnesota. Franchement, chapeau.
Match 4 dans la nuit de dimanche à lundi à 1h30 du matin. Ce sera Minnesota, effectivement. J'y crois pas. Paul Magnier va faire une razzia sur le Giro. J'y crois pas, Christophe Cessieux.
Une razzia, j'en sais rien. Deux victoires d'étape, ce serait magnifique.
Fred.
Je suis d'accord avec Christophe.
Sarah.
J'aimerais bien, mais on va rester raisonnable. C'est sûr qu'une deuxième victoire d'étape serait déjà fantastique.
Alizé.
Ouais, pareil.
Le Français de 22 ans a remporté aussi sa première étape du Tour d'Italie hier à Burgas en Bulgarie. Non, mais tu sais qu'on a réalisé, ça y est, maintenant, en cyclisme, on est la nation forte. Hein.
Ah bah oui, j'ai bien compris.
On gagne toutes les semaines. Ouais. Il a endossé le maillot rose de leader, la Maglia Rossa, Paul Magnier, qui a donc à régler au sprint une dizaine de coureurs, parce qu'il y a eu une chute à 600 mètres de la ligne. Il a battu notamment Jonathan Milan, hein, le maillot vert du dernier tour. Étape pour puncher aujourd'hui, pour sprinter demain, toujours en Bulgarie. Non, mais Chris, Paul Magnier, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Paul Sexas ces derniers temps. Il fait partie des bijoux français qu'on va suivre. Hein.
Oui, parce que c'est franchement un gars hyper rapide au sprint, un garçon très sympa, toujours le grand sourire, qui est né aux États-Unis, qui a un peu cette culture américaine,
au Texas,
et qui n'a peur de rien. On l'a vu
La fameuse culture américaine.
En fin de il a fait une déclaration dans un doc. Il a dit: je connais mieux Jules que Tom Boonen.
On a vu le même documentaire.
Alors, est-ce que tu peux nous chanter un truc de Jules?
Non,
Jules. Tu peux nous faire le signe de Jules?
Non, vous savez, je confonds Jules et Jules parce que j'ai regardé la série Euphoria. Et dans Euphoria,
c'est très intéressant ça. T'as regardé ça à quelle heure hier soir pour connaître tous les détails?
Pour te dire, je pense que, effectivement, Paul Magnier peut encore en gagner une. Là, il sera en rose aujourd'hui. C'est la première fois depuis très longtemps qu'un Français n'avait plus porté le maillot de leader du Giro. Et c'est déjà magnifique. Après, il y a quand même un plateau de sprinteurs qui est hallucinant dans ce Giro. Groves, Andressen et Jonathan Milan, qui avait décroché le maillot vert lors du dernier tour, deux victoires d'étape sur le tour. Il a été battu hier, problème de dérailleur, mais il va sans doute ressurgir de sa boîte.
Vous n'êtes pas prêt pour les deux pôles en cyclisme français, hein. Paul Magnier, Paul Sexas, j'y crois pas. Et si l'Italie organisait le 5e grand chelem en tennis, Sarah?
J'aimerais y croire, mais là je pense que ça part de loin.
Alizé?
J'y crois pas.
Ouais, vous voyez, ce ne sont pas les ravis de la crèche. Elle n'y croit pas.
On n'est pas toujours les ravis de la crèche.
Exactement.
Là. Moi je pense comme Alizé, comme d'habitude.
Vous avez vu comme je prends bâton dynamique pour couper la mèche, comme ça pour.
Ou pour remettre une pièce.
Non mais alors, c'est le président de la Fédé italienne.
Moi j'aimerais bien.
Et Christophe, tu l'aurais dit.
T'aimerais bien?
J'adore Rome.
Ah oui, d'accord, juste parce que tu kiffes.
Le président de la Fédé italienne. Eric nous dit toujours que c'est un des plus beaux clubs au monde.
Ah oui, mais bon, ils ont la terre battue aussi. Non. Alors, organisateur du Masters 1000 de Rome, Angelo Binaghi veut créer un 5e grand chelem en Italie, remettre en cause le monopole des majeurs. Il l'a expliqué à nos confrères de l'AFP. Il est évident que nous avons des idées, mais nous sommes clairement disposés à organiser n'importe où en Italie. Je précise juste qu'en 2028, le central du Foro Italico va monter une capacité de 12 500 places avec un toit rétractable. Alizé, tu crois pas? C'est quoi? C'est le serpent de mer du 5e grand chelem?
Malgré les ambitions de ce tournoi qui sont immenses et les efforts qu'ils produisent pour faire de ce tournoi un des plus beaux tournois de l'année. Je crois qu'ils vont aussi couvrir leur cours central. C'est pour ça qu'il y a aussi autant de travaux pour l'année prochaine. Je pense qu'historiquement, ça passera pas en fait d'avoir un 5e grand chelem. Il y a d'autres pays qui ont essayé, la Chine notamment.
Émirats aussi.
Voilà, les Émirats.
Ils n'ont jamais réussi.
Ça ne s'est jamais produit parce qu'on est très attaché à la culture de ces 4 grands chelems.
Ils ont l'histoire quand même pour eux, les Italiens. C'est un tournoi qui existe depuis 1930.
Oui, mais comment place, quelle est leur posture du coup? Ce serait un 5e grand chelem sur terre battue. Tu vois, à un moment donné,
c'est
ça fait quand même.
Il y a un mondial.
Il va pas le rester éternellement.
On met un grand chelem en Serbie.
J'y crois pas beaucoup.
Il n'y a pas la culture du tennis comme peut exister en Italie.
En même temps, en ping avec le bras, on a réussi à avoir une étape hyper importante.
Oui, mais parce que, encore une fois, c'est ce que on vous a expliqué, les tournois du grand chelem s'auto-gèrent. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans des discussions que l'ATP et la WTA. Les tournois du grand chelem sont régis par l'ITF. Et comme l'ITF est une fédération internationale qui est moins puissante que les grands chelems, donc moins puissante que celle qui donne l'agrément ou qui délivre les points, tu penses bien que les quatre, ils vont pas dire on va vous laisser là-bas. Ouais. Les Émirats ont essayé. Donc, en fait, ce que peut faire le tennis aujourd'hui, c'est d'augmenter ces Master 1000 et d'en faire un circuit.
Indian Wells, ça pourrait aussi être.
Exactement.
Et ils y ont prétendu, Indian Wells. Mais
ils consolident un circuit premium parce qu'au-dessus, c'est inaccessible parce que les quatre ont le monopole et qu'ils n'ont pas l'intention de le céder.
Et surtout, le patron de Rome, là, il doit se dire, comme Roland Garros est critiqué, je vais me jeter dans la brèche.
Il y a a pas mal de sous à se faire hein, quand même. Quand tu organises un grand chelem, tu sais que ta fédération derrière va en tirer les dividendes. Hein.
Bah, je pense pas que ce soit une question d'argent, le sport. Hein. Ça marche pas comme ça.
Non. C'est pour la beauté du geste.
Arrête, tu vas rentrer dans la secte des ravis de la crèche.
J'ai peur qu'il y en ait encore.
Envoie-nous un petit coup d'international, Alban, s'il te plaît.
Allez, tout de suite, les grandes gueules du sport reviennent, le vestiaire et le buzzer. On va parler des problèmes de vestiaire, tiens, justement. Ça peut le concerner aujourd'hui. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.